podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le podcast le plus québécois sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, au son de Link to the Past, le jeu préféré, je pense, de notre invité Guise de Parmentier de Petit-Semier. Salut, man.
Mon jeu préféré de tous les temps, salut Tommy.
De tous les temps, hein?
De tous les temps, tout sport confondu.
Tout sport futur, confondu. Futur, présent,
c'est
passé.
C'est mon Carey Price à moi.
On a
curieusement pas encore fait de cartes de Magic sur des personnages de jeux vidéo. On en invente plein, mais on n'a pas fait. Peut-être que c'est quelque chose que tu vas nous inspirer de faire parce que on te connaît comme étant Guise du jeu C'est sérieux.
Oui, moi je voulais justement te parler, Tommy, des cartes de Magic sur les grandes scientifiques.
Oh!
Ça, j'ai envoyé ça à mon ami Mathieu Dugal, qui est très impliqué dans. Sa conjointe étant une personnalité, puis ils ont adoré. Je voulais te faire le message.
Ben merci beaucoup. On va passer le message à Simon Zod, c'est pas mal lui, qui avait pris ça sur son épaule de commencer ce projet-là. On aime beaucoup ça, inventer des affaires, et effectivement, on a bien scoré avec ça. D'ailleurs, avant d'aller plus loin et de présenter les autres panélistes, je veux faire un petit shout-out à Sébastien Pilon, de la salle Le QG à Rouyn-Noranda. On est écouté à Rouyn. On aime beaucoup ça. Rouyn, ma ville préférée, seulement l'été. Merci beaucoup aux gens de Rouyn. Là-dessus, François Lombré est autour de la table.
Salut les magiciens.
Salut les magiciens, certains. Et on a aussi Emmanuel Côté-Séguin qui est de retour de la semaine passée.
Nyanou!
On a parlé longuement avec Emmanuel la dernière fois. En fait, avant de se lancer avec Guise et de développer un petit peu plus sur son profil de joueur, tantôt off-micro, tu m'as dit qu'à Magic Arena, on draftait contre des bots.
Oui, la phase de sélection de cartes est contre des bots, puis après ça, tu joues contre d'autres personnes qui se sont faites un deck contre des bots.
Contre des bots, eux autres aussi.
C'est sûr que quand tu peux exploiter un peu leur priorité de sélection et tout ça, puis il faut qu'ils rajustent au fur et à mesure que le
sinon,
set avance.
Ça veut dire que ça donne rien de prendre une carte pour que les autres l'aillent pas.
Ça enlève cette stratégie-là, effectivement, qui est quand même assez importante quand tu joues dans ton salon avec tes amis.
Et voilà. Sinon, on va retourner voir notre invité. Guise, toi, t'es un streamer, hein, on peut appeler ça comme ça.
Ça me va.
Ça te va? Tu Twitch quand même assez souvent du Magic Arena.
Oui, je dois t'avouer que j'ai eu ma phase War of the Sparks. Depuis la dernière série de la magie de la féerie, j'ai moins aimé ça. J'ai mis ça sur une tablette. J'attends la nouvelle. Autant j'étais excité sur papier que je m'étais dit que ça allait être malade, mais que War of the Sparks était tellement fort avec les Planeswalker Bic que je les appelais parce qu'il y avait des Planeswalker à usage unique.
Ouais, quand ils sont vides, t'es jettes. Ouais. Les Planeswalker Bic, parfait ça. Puis toi, je veux dire, tu joues à Magic depuis combien de temps?
Comme un peu tout le monde, j'ai commencé à jouer l'année ou la deuxième année que c'est sorti. On s'en souvient plus. Ça fait trop longtemps, là. Je me souviens que j'avais un Juggernaut puis une Serra Angel. C'était la grande époque. Et à un moment donné, j'avais eu une écœur en titre de Magic et j'avais commencé à échanger mes cartes de Magic pour ne pas manger mon lunch. Je vendais des cartes pour environ 5$, qui, si je me rappelle bien, était le prix du repas complet à mon école secondaire.
À la cafétéria, voilà.
Oui, comme ça, je n'avais pas à manger mon lunch. C'était magique.
C'est quoi qui arrivait avec ce lunch-là?
Ah, c'est pas clair.
Tu le revendais-tu pour des cartes?
Mais tu sais, j'étais un ado très grand et avec une masse musculaire importante, donc je pense que je mangeais les deux.
Oh boy, yeah, all the way, Colin. Fait que Magic, ça a pris le bord pendant un petit bout de temps.
Ben oui, puis c'est toi, Tommy, qui m'a ramené, puis je suis reparti. Puis là, tu m'as re-ramené récemment à Outer Minds. Depuis qu'on a commencé à faire des drafts, je m'étais découragé de devoir collectionner des cartes, d'investir, et qu'à tous les quelques mois, j'avais une partie de mon deck qui devenait irrelevant parce que, tu sais, plus ça avance, plus il y a des cartes interdites si on joue dans le mode standard.
Ouais,
mais depuis que j'ai découvert le mode draft, je me suis dit, bon, là, c'est juste pour tout le monde. Là, c'est le fun.
Ouais, c'est vrai que draft, c'est pas
ça dépend. Si tu joues contre moi, tu gagnes tout le temps. C'est pas juste
pour François.
Non.
On n'a pas un assez gros échantillon. Puis là, toi, tu dis que War of the Spark, ça a comme été ta dernière série préférée. C'est celle que t'as préféré drafter.
Ah, c'était... En plus, j'ai eu un gros coup de cœur. Bon, je suis allé pour la première fois de ma vie dans... comment qu'on appelle ça quand c'est un pre-release?
Ouais.
Un pre-release, puis en plus, j'ai eu un deck super fort. J'ai presque tout gagné mes games.
Tu te rappelles-tu les cartes maîtresses de ce deck-là?
J'ai oublié c'était quoi le nom, mais il y en a une que j'ai pigé deux fois. Une que c'était ma carte spéciale avec la date, là. Puis je l'ai repigé dans un booster. C'était quoi déjà? Était bleu et...
Qu'est-ce qu'elle faisait?
Elle volait.
Le bleu rouge colorless que tu peux attaquer tout de suite là.
Ouais.
En tout cas, t'as-tu des couleurs préférées?
Ben j'aime beaucoup le rouge parce que ça fait mal, mais j'aime surtout le bleu parce que au lieu de jouer, t'empêches ton adversaire de jouer. Puis ça c'est très satisfaisant.
Ouais, pour moi. Counter spell. Hein?
Ouais. Mais ben, je me souviens d'ailleurs Tommy t'avoir déjà brisé. À un moment donné, on avait fait un draft puis mon deck comportait presque juste des counterspells.
Il y avait beaucoup de counterspells.
Ou du removal. Puis, j'étais parti dans un voyage d'affaires. Puis, quand je suis revenu, il y avait des papiers écrits counterspell partout cachés dans mon bureau, dans mes tiroirs. Et j'en retrouve encore aujourd'hui.
J'en ai fait une bonne centaine. J'ai caché un peu partout.
T'avais de la rancœur à distribuer.
Y a-tu quelque chose de plus fun que de se faire counterspeller à chaque tour?
Écoute, hein.
Ah, ouais. Écoute, exactement.
Il y a un deck justement standard qui fait ça, là. Puis c'est bleu-vert simic qu'on
contrôle. Celui avec le loup que tu fais rien. Ouais.
Simic Flash, aussi... mais ils ont sorti la nouvelle version en Izzet Flash là, maintenant.
Ah ouais? J'ai pas vu ça.
Ça regarde le même principe, là. Toutes tes créatures, ils ont flash, t'as beaucoup de counter. Puis, avec
tu joues jamais à ton
avec
tour.
Avec des Ionize là, qui jouent, là, dans le fond. Fait que quand tu counter, tu fais 2 de dégâts en plus. Là, fait que...
Oh shit, hein? Ouais, ça c'est. Check ça à face, il est content. Non, fait que toi Giz, tu joues surtout draft et tu joues surtout sinon sur Twitch. Le jeu c'est sérieux, c'est votre Twitch?
On est jeu c'est sérieux partout. Donc okay. Jeu sérieux en un mot. La chaîne s'appelle Le jeu c'est sérieux, mais tu sais, ça aurait été super long. Ouais, mais t'imagines twitch.tv/le jeu, c'est sérieux.
Ouais, c'est vrai. Jeu sérieux, c'est bien.
Impossible. Impossible.
Ça, 6 lettres de trop.
Ça passe le message. Oui, c'est un petit peu ça. Le War of the Spark, c'est ta préférée. T'as-tu commencé à te faire des decks d'adultes?
Des decks d'adultes? Ah, Tommy. La dernière fois que je me suis fait un gros deck d'adultes, c'était, on va appeler ça la deuxième phase. Donc, la première phase, c'est quand j'étais au secondaire.
Okay.
Deuxième phase, c'est quand tu m'as fait revenir dans le jeu puis que je suis reparti. Puis dans cette phase-là, je m'étais fait un gros deck de zombies. Puis je me souviens même te l'avoir donné à un moment donné, ce deck-là, quand j'ai arrêté. Mais celui-là, j'avais travaillé fort. J'étais allé au magasin, j'avais acheté une coupe de Zombie Master pour aller avec mes zombies. Le graveyard travaillait fort, là.
C'était-tu dans les années d'Onslaught, par hasard, ça?
Non,
qu'il y avait des zombies en masse.
C'était plus 2012, là, quand on était chez Machinima dans ces eaux-là.
Ouais. Wow. Ah oui, Machinima.
Ah,
oui. Machinima, c'est rouge-blanc, ça.
Ouais. Un petit peu de noir aussi, tranquille. Colline de souvenirs. Puis sinon, as-tu des games épiques que t'as joué dernièrement? Des affaires qui t'ont frappé? Des cartes que tu aimes en particulier?
Ben moi, j'ai une game qui m'a vraiment marqué, puis c'est justement à Magic the Gathering Online. J'avais fait le fameux deck blanc-noir avec les vampires 4-4 qui, à chaque fois que tu gagnes la vie, l'autre perd la vie, puis que ça fait une roue. Puis mon adversaire aussi avait le même deck que moi, avec les 0-3 que tu tapes, puis que ça te fait gagner. Hey, c'était interminable.
Là, tu gagnes de la vie, ça lui fait perdre de la vie, mais là, il gagne de la vie, fait que tu perds de la vie.
C'était interminable. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se faisait, il y avait tellement d'affaires qui se faisaient, il fallait que
toutes les triggers.
Tes acceptes.
Fait que là, il se passe ça.
Les mirror match, c'est tout le temps.
Ah, c'était désagréable. Puis là, j'étais content d'avoir été le gars qui avait mis 45 cartes dans son deck au lieu de 40 parce que je savais pas quoi couper. Fait que j'ai gagné.
Oh. Parce que l'autre s'est millé.
C'est quand même assez particulier, ça.
Hey, puis c'était pas une game qu'on montait à 40 points de vie. Non, ça restait à peu près à 20.
Deux, on était...
C'était juste comme l'économie down,
qui se passait. Là, l'argent passait de un à l'autre tout le temps.
Oui, c'était triste.
Toi, tu joues-tu à Magic à toutes les semaines dans ton Twitch ou c'est genre une fois par mois?
C'est des phases. Quand j'ai joué, il y a des semaines, j'ai joué 5 fois.
Ouais.
Mais sinon, comme je disais, depuis War of the Sparks, j'ai joué, je pense, 1 ou 2 drafts du nouveau set. J'ai même oublié son nom, là, les filles.
Throne of Eldraine.
Ça. Ça.
Le monde de Disney.
On a un d'ailleurs à job qu'il reste juste toi et moi à jouer contre.
Ouais.
Moi, j'ai battu tout le monde.
Ouais.
C'est quoi, t'as peur ou?
Ouais, mon deck est pas super bon.
Ok,
ben, j'ai un peu drafté pour le deck final. Là.
Ah ouais, ouais, parce qu'on fait ça nous autres à la job. On fait comme une boîte, puis là, le premier draft, deuxième draft. Puis après ça, il faut faire un deck de 60 cartes avec nos deux decks de draft d'avant. Ah,
fait cool. Qu'il y a deux types de joueurs. Il y a ceux qui veulent gagner tout le temps,
ouais.
Puis il y a ceux qui veulent gagner quand ça compte.
Fait que là, tu fais ton deuxième draft en prévision.
Exactement,
de faire
ça.
Ton
final draft, ouais.
Complété, tu sais, de laisser. De, okay. Ça amène une nouvelle manière de faire des affaires.
Ah, c'est très Ligue nationale de hockey, hein. Donc, on sacrifie une saison pour le futur.
Effectivement. D'ailleurs, comment ça va, ça, le hockey? Ça va
très bien, hein. Il y a eu un excellent article ce matin. Chez Weber se sacrifie pour l'équipe. Parce qu'il a plongé devant un tir. Le tir a touché son bâton, puis ensuite, la rondelle lui a revolé en face. Mais là, lui avait calculé ça, hein, parce que le journaliste l'a dit, il s'est sacrifié. Fait que lui, il s'est dit, je vais mettre mon bâton, la rondelle va frapper mon bâton, je vais en manger dans la face, c'était magnifique.
Ouais, sûrement.
Et contrairement à un joueur de soccer, ben, même si je l'ai, ben, il a pas manqué un shift, puis je trouvais ça quand même assez sexy.
ça
bouche en sang.
Ouais, ça me rappelle un de mes clips préférés de, je pense, c'est l'année passée ou de là 2 ans. Là, ils ont mis un à côté de l'autre, il y avait Alexander Ovechkin qui recevait une puck dans la face, puis que là, il checkait si ses dents tenaient, puis c'était correct.
Ah non, il en a enlevé quelques-unes.
Ah oui,
Il
donne aux soigneurs.
Oui, il donne aux soigneurs.
Ah,
oui.
Puis, en parallèle de ça, il y a un joueur de soccer qui s'en va faire un corner. Puis là, la ballonne rebondit une fois à terre. Puis là, le poigne sur la hanche. Puis là, il revole à terre en souffrant. En tout cas,
c'est pas pareil.
Magic, y a-tu de ça des fois?
Ben oui, ben Counterspell, j'ai l'impression que ça te fait un peu ça à toi, Tommy.
Ouais, c'est ça.
Il y a du monde qui trigger facilement.
Mais c'est peut-être aussi quelque chose que je t'ai inculqué, le Magic diplomatique, que la game se passe pas juste à la table.
Je dirais plus le Magic d'intimidation.
Ah, voilà.
Psychologique.
Donc, oui, le Magic psychologique.
Préparer le match.
non, mais c'est important. Ça peut faire prendre des décisions tout croche à l'autre.
Effectivement.
Moi, mon père m'avait instauré ça dans le sport. Mon père était champion d'haltérophilie. Puis, il allait souvent voir les autres avant. Puis là, il faisait « Ah ouais, tu commences à tant de livres. » Ben là, moi, je commence à tant. Fait que là, tu vas être fatigué à ton 3e livre. En tout cas.
Semer des petites graines de doute.
Mais le gars, il est comme « Ah ouais, hein? »
Ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire à Magic Arena, par contre.
Non. À part cliquer « Hello! Ouais. »« You're go! »
Puis là, l'autre, il a mute les emotes, fait que tu fais ça dans le vide. Là.
Ah ouais?
C'est moindrement intelligent, t'as mute tes emotes, parce que justement, ça t'empêche de trigger ça. Pour ça. Oh yes!
Tu dis que je fais des tonnes d'emotes pour rien?
Possiblement.
Ben, ouais, c'est... OK, Emmanuel, il connaît ça, le Magic Arena. Il a joué beaucoup, il nous a appris ça la semaine passée, lui. Ben, merci beaucoup d'être avec nous, Giz. C'est vraiment super de te revoir dans ce contexte-là. Parce qu'on travaille quand même ensemble.
C'est vrai.
Ah oui, vous connaissez?
Ben oui, ouais, j'ai déjà vu pas mal toutes les parties de son corps.
On passe au prochain segment.
Hey, fait que là, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va remercier beaucoup nos amis de... Crème Jason, il a tout changé la feuille de route. Voilà, nos amis de l'Abysse au 7355 Saint-Michel, au métro Saint-Michel, parce que c'est eux qui présentent la carte de la semaine. On écoute le beat à Bone et on y revient.
Ah oui, hein, c'est moi qui vous présente la carte de la semaine encore une fois cette semaine.
Ben
écoute,
oui.
On est allé pour Fires of Invention. On est dans le standard, deep dans le standard, dans la méta présentement. Hein, Fires of Invention pour 3 colorless, 1 rouge, c'est un enchantement que tu laisses sur la table et qui te permet de caster 2 spells à ton tour maximum. Tu peux juste caster 2 spells, sauf que t'as pas besoin de caster avec de taper tes lands pour le caster. Si t'as assez de lands pour le faire, donc... Et tu ne peux pas non plus caster de spell autour de l'adversaire.
Fait que ça fait que tour 4, tu mets ton Fires of Invention. Pour 4, tu peux également caster ton deuxième spell.
Que
pour gratuit, sans s'il coûte 4. Land.
Ben oui.
Tour 5, tu peux caster 2 spells à 5 de mana cost. Tour 6, 2 spells à 6 de mana cost. Ça te permet de caster des gros spells assez rapidement puis de mettre tes grosses bébites en jeu.
En tant qu'adversaire, pis c'est très, très difficile à vivre.
C'est rough.
Moi, je te mettrais des counter spells avec ça. Fait que tu castes ta grosse bébite, puis le gars te counter spell, puis je fais « Ah ouais, mais moi, je counter spell ton counter spell. » Ce serait fou.
Tu peux pas parce que tu peux pas... En tout cas, tu peux pas counter speller ces affaires à l'autre pendant ça,
tu
son
peux pas
tour.
Jouer à
non, mais pendant ton tour, mettons, moi, je casse ma grosse bébite.
Ouais.
Ah, mais lui, quand toi, tu mets cette carte-là, ça s'applique à lui aussi?
Non,
c'est pour toi.
C'est toi qui joues ton spell. Sauf qu'il a tout son mana pour jouer ses counter spells à lui sur tes counter spells. C'est son tour parce qu'il a pas besoin de son mana, sauf que c'est son deuxième spell.
C'est fini.
Je dirais qu'au début, sur papier, je trouvais pas que ça avait l'air bon.
Ben, la plupart du monde se sont dit ça. Mais en ce moment, c'est vraiment... c'est très utilisé. Il y a Jeskai Fires qui est un gros deck, mais c'est rendu qu'il y a beaucoup de decks avec juste Fires. Dès qu'il y a du rouge dedans, ils vont avec Fires of Invention. Il y a plusieurs variantes.
Puis c'est le fun aussi parce que, mettons, là, tu casses ton spell pour 5 de mana, mais t'as encore tes lands. Fait que là, tu peux activer ses habiletés.
Ben, ça prend des mana sync là, qui viennent avec ça. Souvent, mana le monde joue sync. Avec des façons d'utiliser ton mana superflu. Là. Le monde joue beaucoup avec Khenrit, le roi dans Throne of Eldraine, qui a comme une habilité pour chaque couleur. Là. Fait que là, tu peux donner haste à tes bébites.
Puis ça coûte juste un rouge. Fait que c'est pratique de mettre ça dans un... Tu peux le mettre dans un deck de plus d'une couleur.
Tout à fait.
Et voilà. Je pense que c'était la carte de la semaine.
Ah oui,
yes.
Throne of Eldraine, fait que toi, tu le verras pas passer, Giz. C'est plus la deck. Tu joues, toi, t'es encore dans War of the Spark.
Hey, c'était bon, hein?
J'avoue que c'était très bon. J'aimais ça.
Fait qu'on va y en reparler un petit peu avec Giz de War of the Spark juste après le beat à bon et peut-être une petite page de publicité. Je sais pas si podcast.com est rendu avec ça. À tantôt!
Les lundis douteux, chaque lundi depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux, apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis.
Fait que War of the Spark, Giz.
Mais, hein?
Bon, all the way, t'avais-tu suivi l'histoire, toi? Est-ce que c'est important pour toi, ça, l'histoire?
Seulement quand c'est toi qui la racontes, Tommy. Je dois t'avouer que l'histoire de Magic, je m'en foutais vraiment beaucoup. mais depuis que tu nous as parlé de Nicole Bola, puis là, tu t'es mis à nous parler d'une couple de bonhommes, c'était pas mal meilleur.
Faut dire que pour War of the Spark, c'est comme des histoires de super-héros. Là. T'as vraiment des personnages forts avec des identités fortes.
Ben ouais, mais moi, ça, ce parallèle-là entre le MCU puis la gimmick de la ligue des guilds là, de Jace, là, je le vois pas. Premièrement, comment tu veux faire un jeu si les personnages sont pas comme avec des pouvoirs qu'on aimerait avoir? Je veux dire,
ça va de pair, c'est naturel.
C'est ça. Là, après ça, c'est des personnages puissants. Il y en a qui sont égoïstes, il y en a qui veulent protéger les plus faibles. Ça va tout le temps être de même. C'est pas parce qu'il y a une gang de personnages avec des super pouvoirs qui s'allient dans un autre univers ailleurs que parce qu'on fait ça dans d'autres univers, on copie eux autres. Je trouve ça malhonnête comme manière de tout le temps rapprocher ça. Mais on dirait que
c'est une façon de le faire comprendre à des gens qui connaissent moins ça. Ouais. C'est un parallèle. On peut dire justement War of the Spark, c'est comme les Avengers parce que là, c'est là qu'ils récupéraient justement comme toutes les Planeswalkers de toutes les autres sets qui ramassaient tout ensemble.
De toute façon, Thanos, c'est le gentil du film. Là.
Ben, c'est sûr.
T'as-tu vu le même?
Hashtag Thanos did nothing wrong.
Non, ben oui. Thanos, il voulait comme rétablir l'équilibre écologique. Là. C'est un peu comme... Non, c'est pas...
Ouais. C'est sérieux, le jeu, moi. Puis sinon, fait que là, dans le fond, t'attends le prochain set, Throne of Eldraine, ça te branche moins.
Ouais.
Pourquoi?
Je sais pas.
J'ai manque de plein de
les aventures, ça avait l'air super le fun. J'ai peut-être pas été chanceux, Tommy. J'ai peut-être pas pogné de synergies intéressantes. À chaque fois que je joue ce deck-là, je suis comme... Soit que je suis obligé de skipper mon aventure parce que...
T'as besoin de la bébite.
Ouais. Parce que j'ai besoin de bébite. Je sais pas.
Non, mais j'avoue que drafter Throne of Eldraine, c'est peut-être moins le fun que War of the Spark. Parce que justement, c'est plus éclaté. Tandis que dans War of the Spark, t'étais sûr d'avoir des Planeswalkers.
Ouais.
T'étais sûr d'avoir des nananes, là.
C'est ça,
Tandis que Throne of Eldraine, c'est un peu.
C'est que le power level a baissé un peu, mais. Hein? C'est un pool intéressant à drafter, je trouve.
Je sais pas si le power level a baissé.
Si tu regardes dans War of the Spark, il y avait les dieux, il y avait tous les planeswalkers. Ouais,
c'est vrai.
C'était quand même tough à gérer, puis c'était beaucoup centré sur les bombes. Là, tu droppes ton dieu, puis essaye de gérer ça, mon homme.
Parce que c'est genre drafter. Avoir la stratégie Adventure en draft, c'est pas faisable. C'est trop tough à faire.
Ben ouais!
Ouais, ben, faut que tu pognes l'artefact Clover Leaf.
Lucky Clover.
Absolument.
Ouais. Ah, ouais.
Ça, c'est le fun en ST. Ça, tu peux le faire en double. Et ça n'est pas légendaire. Fait que tu peux en avoir trois en jeu.
Oui.
Puis recopier quand même.
Je l'ai pas pu gérer.
Non, c'est ça.
Non,
c'est vrai.
Sinon, ben, les tokens de food, c'est pas quelque chose qui touche ça. Moi, j'aime ça faire des tartes avec des dragons.
Ouais, ben, ça fait des drôles de conversations. Là, ouais. Genre, je nourris mon dragon ou je te pitch un food d'en face puis ça te fait mal.
Ouais. J'avoue qu'il y a
le premier tournoi, quand ils ont sorti, il y avait les archétypes de deck puis il y avait le food deck.
Ouais.
OK, c'est là qu'on est rendu.
Ben, ça, c'était le deck avec Oko.
Ouais.
Ah, Oko.
Tu es son
âme. Il est Wapiti.
Il est smart. Spoiler. Il est banni.
Il est banni, là. C'est fini.
Il était trop obnoxious. Il était trop dur à gérer.
Moi, je dis qu'on aurait banni Superman. Parce que c'est un autre sujet.
Ça serait quoi, Superman? Ça serait une carte blanche.
Ouais, quand
Superman,
même.
C'est la justice et c'est la joie.
Non, c'est une carte genre, si t'as un pouvoir, il peut copier ton pouvoir en mieux.
Ouais,
c'est comme super plate. Je l'ai.
Ouais, Superman, ça a long.
Ah oui, Flash, t'es le plus vite au monde. Ok, on va faire une course. Hey, je t'ai battu.
Ouais.
Mais laisse-y, tu sais. Mets ça serré, mais fais les perdre.
C'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait pour lui.
Ben oui, effectivement. Mais ça vient d'une époque, en fait. C'est que moi je connais ça quand même. Et je vous passe de l'information, c'est que dans les années 40, il y a eu une mode qui s'est appelée la mode des héros parfaits. Et de ces héros-là, il y a eu Batman qui est sorti, il y a eu Superman, il y a eu Mandrake le magicien, il y a eu Dick Tracy. Ça n'est qui passe moi au travers des époques, mais c'est une époque où les héros avaient tout le temps raison. Que Superman, tu sais, mettons, c'était impossible de l'imaginer en train de faire autre chose que de régler des crimes. Et cette époque-là a été bouleversée, je dirais, par Charles Schulz quand il a inventé les peanuts. Parce que les peanuts, Charlie Brown, c'est la psychanalyse venait de commencer, c'était un petit peu à la mode. Et chacun des personnages dans Charlie Brown incarne une maladie psychologique. Dans le sens que Snoopy, c'est le complexe de supériorité, Charlie Brown, c'est le complexe d'infériorité. Et ça l'a amené un nouvel angle d'approche des super-héros. Parce que là, mettons, Dick Tracy, quand il n'est pas en train d'avoir raison puis de régler des crimes, est-ce qu'il fait son lavage? Et ça l'a donné une autre vague de héros qui sont venus après, comme Spider-Man, que sa vie est pas tout le temps facile, qu'il faut qu'il cache son identité, qu'il y a du monde qui l'haïsse, qui sont au pouvoir, il faut quand même qu'il paye son loyer en tant qu'étudiant, fait qu'il prend des photos en tant que Peter Parker. Tu sais, ça l'a amené une autre perspective sur les héros. Et Superman, c'est celui que je dirais qui est le plus resté parfait, parce que pendant longtemps, DC disait, il y avait comme un motto, c'était « Peu importe si tu es rapide, fort ou que tu lances des lasers, comme tu as dit tantôt, Superman le fait aussi et il le fait mieux que toi. » Et ça l'a créé pendant longtemps aussi. C'est comme devenu une espèce de cul-de-sac diégétique pour Superman, parce que comment tu peux y amener des adversaires? Ce qui fait qu'ils ont fait, début 80, DC a fait comme une refonte du DC Universe. Ils ont recommencé à zéro et ils ont enlevé quelque chose que je trouve quand même assez très risible. C'est que à l'époque, il y avait plusieurs couleurs de kryptonite. Il y avait de la kryptonite mauve qui avait un autre effet. Et la kryptonite la plus puissante, c'est la kryptonite noire qui créait des clones evil de Superman. Fait que là, Superman se battait contre lui-même vu que c'était le seul adversaire à sa taille. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que on est quand même rendu pas mal loin de Magic, tout en parlant de Magic, parce que on parlait de super-héros et tout. T'as-tu un Planeswalker préféré? T'as-tu un personnage préféré dans cet univers-là?
Un personnage préféré. C'est sûr que la nostalgie... Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on me parle de Magic, je pense à mon vieux Juggernaut.
Ah ouais,
ça donne un bon, ça. Il faut qu'il attaque à toutes les tours.
Le Juggernaut, un artefact
5-3, je me trompe pas.
En plein ça, qui coûte 4 à sortir. Il ne peut être bloqué par des murs et il doit attaquer à chaque tour.
Ben oui, c'est sûr, c'est une catapulte. Ben, ça passe par-dessus.
Exactement, mais c'est... Le Juggernaut, une catapulte.
Ben, ça a l'air d'une catapulte un peu. Le vieux dessin, on...
Non, je l'imaginais comme ça. Non, t'as mis un U. C'est ça. C'est ça, c'est un E.
Et voilà, on va se rendre... l'air.
Savez-vous, ça vient d'où le Juggernaut?
L'original. Là.
C'est dans les X-Men, ça, c'est ça. Hein?
En fait, oui. Bien. Alors, l'original les Juggernaut, jasons. En fait, c'est quand que les colons, les colons, c'est pas vraiment des colons, quand l'envahisseur impérialiste anglais est allé en Inde, il y a des parties dans l'ouest de l'Inde qui faisaient des hosties de gros parties en transportant une grosse structure qui était le Juggernaut. Et c'est déjà arrivé que, t'sais, pis c'était tellement gros qu'on pouvait pas l'arrêter. C'était ça, la patente. C'était traîné par plein de chevaux et tout. Et la légende veut que les célébrants, des fois, pour en rajouter à la magnificence de la procession, allaient se sacrifier en se pitchant en avant du Juggernaut. Puis là, il y avait pas moyen de l'arrêter, fait qu'il se faisait écraser. Mais ça, c'est les rapports des Anglais qui disent ça. Mais
ça fait des gros parties.
Oui, exactement. Dans les faits, c'est plus qu'il y en a des fois qui s'enfargeaient en avant, t'sais, à force de danser puis tout. Puis là, on peut pas l'arrêter, le Juggernaut. Fait que le monde se faisait écraser comme ça. C'est devenu un monstre mythologique par la suite, pour toutes sortes de raisons dans Donjons et Dragons et dans le reste. Mais à la base, c'est un concept qui vient de l'Inde. Voilà. Le Juggernaut, à l'époque, c'était un des monstres les plus forts. Je me rappelle ça, puis le Hernam Djinn, qui coûtait 3 colorless, 1 vert, que quand pendant ton upkeep, il fallait que tu donnes Forest Walk à un des monstres de l'autre, et c'est un monstre 4-5, c'était les deux monstres qui revenaient le plus en combat.
Du gros power.
Ouais. Mais 5-3 pour 4 à l'époque, ouais. C'était quand même assez musclé. Là, on n'avait pas... Il n'y avait pas vraiment d'équivalent. C'est un très bon monstre.
Mais c'est aussi qu'il ne pouvait pas être bloqué par les murs. Il y en avait beaucoup dans le temps.
Et oui, je viens de regarder le vieux dessin. Je comprends maintenant comment je comprends la créature qui avance avec les pics. Tout, ça. Mais je vois encore une catapulte pour une raison. Moi, j'ai l'impression, on la voit juste pas. Là,
le vieux artwork.
Ça a l'air, le vieux dessin, on dirait que ça me fait penser à ça. C'est très médiéval.
Effectivement.
Moi, dans le médiéval, je vois des catapultes partout. Je vois Age of the Empire.
Voilà. Sinon, t'es un fan de jeux vidéo, t'as-tu je veux dire, là, il y a Magic, jeu de table, t'as-tu d'autres jeux de société, tu passes ton temps dans les jeux vidéo pas mal.
Ah oui, c'est c'en est quasiment triste, mais moi, ça me rend heureux. Non, mais moi, ça me rend heureux.
Tes shit ont l'air de bien aller ces temps-ci aussi.
Ça va très bien. Avec Laurent, le jeu, c'est sérieux, ça va super bien. Là, en ce moment, on joue beaucoup à...
Pokémon, attraper des shiny.
Le nouveau Pokémon.
Oui, t'as payé ton nounours.
Mais j'ai recommencé beaucoup à jouer à Zelda Link to the Past Randomizer.
Ouais.
Parce qu'il y a eu la version Halloween qui était... très cool. Le boss de la fin, je peux vous le spoiler, anyway, c'est fini. C'était Wart de Super Mario Bros. 2. Donc, on se battait contre Wart. Il avait fallu que tu trouves le golden ticket pour aller voir Charlie pour aller à la chocolaterie. Puis la chocolaterie, c'était le temps de la fée que tu lançais des items dedans, puis ça te sortait des items. Tu pitchais de l'argent dedans, pardon. En tout cas, c'est... Cette gang-là, la gang de Link to the Past Randomizer, font vraiment de la magie et je m'attends à de la magie de Noël très bientôt.
Ah. Oui, effectivement, s'ils gardent les étapes. Nous autres aussi, on vient de l'installer. Là, je vais essayer ça, le Randomizer, parce que je réalise que le monde qui regarde Douteux TV 1, il aime ça me voir en crise. Je suis tombé dans le piège avec Alundra, je pense.
Mettez vos coins sur Kill Player, s'il vous plaît.
Oui, ça, c'est ça. Ah oui, hey, je me souviens, ça c'est, là on ajoute le crowd control, donc les gens peuvent influencer le jeu. Les gens peuvent nous donner des items, nous enlever des items, peuvent même aller jusqu'à nous tuer. Puis, tu sais, le Ice Palace, on s'en souvient à quel point qu'il est pas long?
Ouais, ouais, effectivement.
Fait qu'à chaque fois que j'arrivais au Ice Palace, la toune partait.
Là, le monde te tuait.
Le monde me tuait. Là, je recommençais.
Ouais, j'ai vu ça.
Mais moi, ça me dérangeait pas. Ça revenait à 15$ à chaque fois que je me faisais tuer.
Ouais, c'est ça.
Alright, va leur faire l'Ice Palace.
Puis si le monde, il trouve ça drôle, écoute, ils auront bien ce qu'ils veulent. Sinon, tu m'as parlé de l'interface pour jouer à Magic Arena sur Twitch.
Ouais.
Peux-tu me développer un peu là-dessus?
Oui, ben l'interface pour les drafts.
Okay.
Ça, c'est super intéressant. Pendant que tu drafts, les gens peuvent cliquer sur les cartes. Puis là, ça te montre des pourcentages de qu'est-ce que les gens aimeraient que tu prennes.
Oh, on draft en équipe.
On draft en équipe. Il y a tout le temps des trolls qui vont cliquer sur le land. Mais bon.
Mais ça, c'était avec Deckmaster.
C'était avec Deckmaster. Je sais pas si c'est encore fonctionnel.
Ils ont de la misère à le mettre à jour.
Ils ont de la misère à le mettre à jour.
De façon continue. Mais là, la nouvelle, c'est le Cardboard Live, que ça se passe pas mal. Mais je pense qu'ils sont... Ils sélectionnent quel streamer ils mettent. Ils sont encore
en bêta.
En bêta. Mais
Deckmaster, c'était très bien pour ça. On pouvait voter aussi. Qu'est-ce qui était le fun? C'est que les joueurs... Tu sais, moi, quand je regarde un streamer, ce que je veux voir, c'est je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans son graveyard. Je veux voir... je veux pouvoir lire les cartes parce que, tu sais, je les connais pas.
Ouais.
On pouvait mettre la souris par-dessus et la carte grossissait dans l'écran directement dans l'interface de Twitch pour que tu puisses la lire.
Fait que ça veut dire, mettons, moi, je te regarde ton live, je peux aller moi-même cliquer sur des cartes et les voir.
Son deck pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans son deck.
Ou dans
deck,
le graveyard, mettons que tu veux m'aider, tu dis, hey, t'as une carte qui ramène une carte de graveyard, tu peux aller voir dans mon graveyard, fais-le parce que tu peux ramener elle.
Ouais, fait que là, le feeling de jouer en équipe est encore plus là.
Ouais, le feeling de communauté, de la raison de pourquoi on a des interactions avec les avec les viewers.
J'aime ça. Ben, c'est quelque chose qu'on va sûrement essayer à Douteux TV. Sinon, est-ce que t'as comme un schedule sur le jeu, c'est sérieux? Genre, toi, on joue le mardi, on fait des role-playing.
Oui, les mardis, c'est les role-playing avec, justement, toi, Tommy.
Ben oui.
Andy et Bruno, en ce moment, on est en train de finir South Park. C'est fidèle à eux-mêmes. C'est très bon.
C'est quoi, Fracture
Butthole?
L'anal du destin. Ouais.
les deux jeux, l'histoire est excellente. Ah, je pense que le play... le jouage est mieux dans le deuxième.
Moi, j'avais joué le premier. C'était... Tu t'as fait le tour vite, surtout si t'es habitué de faire des jeux de rôle. Là, tu vois facilement la gimmick.
Moi, j'avais bien aimé ça. L'histoire est
bonne.
L'histoire est bonne, mais en fait, la seule chose que j'aimais plus dans le 1 par rapport au 2, je pense, c'est qu'ils ont enlevé le bouton pour courir dans le 2.
Un bon choix dans un jeu vidéo.
Mais il y a quand même pas mal de place pour se téléporter. J'aime aussi dans ces jeux-là le concept que on la connaît, cette ville-là. Puis là, on la voit. J'aime ça, moi, ça. Ça rajoute une étape.
J'avais vécu le même feeling quand j'avais joué aux Simpsons.
Ouais.
Puis là, je me promenais dans Springfield. J'étais comme, c'est...
Dans l'émission que tu regardes.
C'est celui que t'as joué, celui au Dreamcast, le Crazy Taxi Simpson.
Ouais.
Ouais, c'était quand même assez particulier, ça. Le Dreamcast, la console avec Shenmue.
La
console. Flash de question.
Oui.
T'as-tu déjà joué à d'autres jeux de Magic qui n'est pas Arena? Genre les Duels of Planeswalker, ces affaires-là? Ou Chandalar?
Ouais.
Non, jamais.
Jamais. J'ai acheté le nouveau jeu du créateur de Magic. J'ai oublié c'est quoi le nom?
Keyforge.
J'ai pas joué encore. Je l'ai dans ma valise de char. Si jamais ça vous tente à m'emmener, on déballe ça.
Mais ça, je pense qu'il faut qu'on aille chacun notre deck, par contre.
Ça vient avec des decks.
OK, top. Puis
les decks sont pré-créés. Tu ne peux pas les créer. C'est la variante. Donc, il existe des milliers de decks qui sont tous créés par des AI, puis imprimés par des AI, puis tu peux pas les modifier.
Mais me semble que c'est moins le fun, ça.
Ben, ça
c'est
dépend.
Autre chose.
Ben, j'avoue que ça enlève le trip de faire son deck.
C'est que nous on a, moi, personnellement, je suis un collectionneur, fait que j'ai le trip collection, j'ai le trip créer mon propre deck, alors qu'il doit y avoir d'autres joueurs que c'est juste... Mais moi, je pense que je suis bon dans des stratégies, fait que je préfère que ça soit fait pour moi.
Ouais.
Oh, OK. On les salue.
Bon, ouais. On les salue, certains. Moi, j'ai plus de questions. J'aimerais ça que tu reviennes dans le futur à terrain basique, Guiz, certain.
Pour reparler de Thanos.
on lui fera une carte aussi. Là,
Thanos, c'est
ouais, je pense qu'on est rendu
là. Thanos.
Bon, on est rendu à peut-être les jeux vidéo, le blablabla. En tout cas, on prend toutes les idées. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup si vous voulez participer à notre communauté sur Facebook ou ailleurs, ou venir jouer ici au musée un vendredi soir. N'hésitez pas. Terrain basique est disponible sur Spotify. Emmanuel Côté-Séguin.
Bonsoir.
On peut te suivre à l'adversaire au 4303 Sainte-Catherine-Est.
Tout à fait.
C'est chaque dimanche, je pense?
Moi, je suis le dimanche. Mais ouais. On est ouvert toute la semaine, sauf le lundi.
Sinon, un jeudi sur deux, vous avez les tournois de Magic Old School.
Je crois, mais c'est pas moi qui organise ça, fait que c'est sous toute réserve.
Tenez-vous au courant avec leur communauté. Je pense que c'est White Wolf, Tundra Wolf.
Tundra Wolves, ouais.
Ouais, ouais. Bon, ben voilà. Montréal. Merci beaucoup d'être repassé à
Terre
Basique. Merci beaucoup à François Lompré.
Hey, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, parce que ça va pas dans c'est le stand-là. Là.
Effectivement. On va avoir Terros. D'ailleurs, ça fait quelques shows un petit peu plus humains qu'on vous présente. Mais Jason, il est en train de nous monter un sacré gros bloc sur ce qu'il appelle le retour en enfer de Terros. Hein. C'est un jeu. J'ai bien hâte de voir ça. Et merci beaucoup, Guiz de Pessamier.
Merci beaucoup.
On peut suivre sur le jeu, c'est sérieux. Sinon, ben essayez Pixeling de PewDiePie, c'est gratuit présentement sur l'App Store.
C'est gratuit pour toujours.
Pour toujours. Ouais. À date.
À date
pour toujours. Fait que moi, mon nom, c'est Tommy Godette et je vous souhaite à tous d'être le moins manascrew possible.
De la famille H2O Web Media.